Chanson d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui scrute la vie des Européens. Accent qui vous emmène une fois de plus en Ukraine. Alors qu'à la frontière russo-ukrainienne, on entend les bruits de bottes, Sébastien Gobert nous propose de rencontrer un poète, Sheri Djadan. C'est l'un des plus grands écrivains de sa génération, très actif dans la société civile. Sévèrement battu par des militants pro-russes il y a quelques semaines, Sheri Djadan n'abandonne pas la lutte à Kharkov.
Il sort à peine de 2 semaines d'hôpital, mais il a l'air prêt à continuer la lutte. Sheri Djadan a été une des grandes figures de l'Euromaïdan de Kharkiv, la seconde ville d'Ukraine, et il se bat maintenant pour l'unité du pays contre les mouvements séparatistes pro-russes qui agitent la région. À 39 ans, Sheri Djadan n'est plus qu'un militant civique. Ancien professeur de langues étrangères, il est l'un des poètes et écrivains les plus respectés de sa génération. Rendu célèbre à l'étranger grâce à son roman « Anarchie dans l'Ukraine », il est passé maître dans la description de la société post-soviétique et des changements survenus depuis 1991, notamment à travers la Révolution Orange de 2004, pour laquelle il avait été aussi très actif. Pour celui qui est membre d'un groupe de rock très populaire, la langue, que ce soit le russe ou l'ukrainien, ne sont pas des questions critiques, mais plus un mélange organique, propre à l'Ukraine. À l'est du pays, loin du dynamisme culturel de Kiev, la capitale, et de la prétention intellectuelle de Lviv, l'occidental, Sheri Djadan est le symbole d'une autre facette de l'Ukraine, imprégnée de culture russe et orientale. Est-ce que son engagement en faveur de l'Euromaïdan va influencer ses prochains ouvrages? Il ne pense pas, mais ce qui est sûr, c'est que la révolution donne l'opportunité au pays et à son expression artistique de trouver un nouveau souffle.
Di terremoto alle 3:32 di questa notte in Abruzzo con epicentro vicino all'Aquila.
5 ans après le séisme de l'Aquila, 309 morts, 70 000 sans-abri, la reconstruction est loin d'être achevée, les traces de la catastrophe sont encore largement présentes. Plus de 22 000 habitants vivent encore dans des lotissements pas toujours salubres, ces New Towns, villes temporaires. Il faudra, d'après le maire, entre 8 et 10 ans pour que la ville se redresse. Aujourd'hui, alors que les tremblements de terre continuent de secouer l'Italie, familles des victimes et experts appellent à ne pas oublier les leçons du 6 avril 2009 et ils demandent à mettre l'accent sur la prévention. Mathilde Auvillain s'est rendue sur place.
5 ans après la terrible nuit du 5 au 6 avril 2009, il pleut sur l'Aquila, comme si le ciel pleurait de toutes ses larmes sur la désolation qui a pris racine dans cette ville dévastée. Simone a été sortie vivante des décombres de la Casa dello Studente, la maison des étudiants. 5 ans après, il a encore la gorge serrée en racontant ce qu'il a vécu.
Il y avait des secousses depuis 5-6 mois. On avait pris l'habitude et on nous avait dit de rester tranquille, que tout allait bien. Le bâtiment dans lequel on vivait nous semblait assez sûr. Il avait l'air indestructible. Au point que ce soir-là, 2 amis sont venus dormir chez nous. On les avait invités parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité chez eux. Le garçon a été sauvé, mais la jeune fille est morte. Dans le quartier, au final, le seul bâtiment à s'être effondré, ça a été le nôtre.
Cet étudiant et un gardien sont morts dans l'effondrement de ce foyer étudiant. Le bâtiment, construit en 1965, ne respectait pas les normes antisismiques introduites 10 ans plus tard, mais personne ne l'avait dit aux étudiants. Chacun des 309 morts du séisme de l'Aquila est un mort de trop. La catastrophe n'aurait sans doute pas eu une telle ampleur si les habitants avaient été formés et informés. C'est en tout cas l'avis de Gianluca Valencise, responsable du projet Abruzzo au Centre national de géologie.
Il y a une désinformation de la population pour des raisons culturelles. Les Italiens sont fatalistes. Au sud, l'Italien moyen pense que les catastrophes arrivent et qu'on y peut rien. Mais il n'y a pas non plus d'initiative gouvernementale pour la prévention. Et pourtant, l'Italie en aurait besoin. 40 à 50% du territoire est exposé au risque sismique.
28 novembre 1905, séisme de Messine, plus de 95 000 morts. 23 novembre 1980, séisme de l'Irpinia, près de Naples, environ 3 000 morts. Automne 97, séisme à Assise, 12 morts et 38 000 sans-abri, 309 morts à L'Aquila en 2009, 27 en Émilie-Romagne en 2012. Le président du Centre national de géologie, Gianvito Graziano, lance un cri d'alarme.
Il faut s'attendre à de nouveaux séismes, mais toute la question, c'est de s'y préparer. On peut vivre avec le risque, on peut vivre avec, comme en Californie par exemple, où à l'entrée des bâtiments publics, des panneaux indiquent s'ils respectent les normes antisismiques. Comme au Japon, où la population sait comment réagir en cas de tremblement de terre, c'est ce qu'on doit faire aussi. Et les Italiens doivent avoir le droit de vivre dans des maisons sûres, résistantes, au moins pour des séismes de magnitude limitée, comme c'est le cas de celui de L'Aquila.
Pia Antignani incarne l'espoir d'un changement. Cette jeune fille a survécu à l'effondrement de son école après le séisme de San Giuliano di Puglia dans le Molise en 2002. 12 ans plus tard, elle est inscrite en faculté de géologie et tenait à être présente aux commémorations du 6 avril à L'Aquila.
J'ai dû lutter, dépasser ma peur des tremblements de terre. J'y arrive parce que je veux que quelque chose change en Italie, qu'on en finisse avec l'indulgence dans la construction hors normes. Je veux que personne ne risque plus sa vie dans les bâtiments publics, qui devraient être les lieux les plus sûrs pour la population. Ce n'est plus possible qu'ils tombent en miettes en faisant des victimes. C'est injuste.
Injuste surtout que les jeunes générations doivent payer le lourd tribut des erreurs passées. 27 camarades de classe de Pia sont morts dans l'effondrement de l'école de San Giuliano di Puglia en 2002. 50 étudiants ont perdu la vie dans le séisme de L'Aquila en 2009. If you go down to the woods today, you're sure of a big surprise. If you go down to the woods today, you'd better go in disguise. For every bear that ever there was is gathered there for certain, because today's the day the teddy bears have their picnic.
Et vous devinerez tout à l'heure pourquoi cette chanson est une nouvelle religion païenne, qui plus est, qui naît en Europe avec l'aval de l'État. C'est possible, et ça se passe en Finlande. Si les trois quarts des habitants se déclarent protestants, certains ont choisi de suivre leur voie, inspirée par les légendes pré-chrétiennes. Il s'agit du peuple de l'ours, une reconnaissance de l'État finlandais qui fait jaser. Pauline Curtet, elle, a rencontré quelques-uns de ces nouveaux croyants.
Lorsque l'on donne rendez-vous aux membres du peuple de l'ours, on s'attend à se retrouver au milieu des bois à la recherche de l'animal roi. Et non, ils refusent d'être enregistrés par un journaliste lors de leur rituel, de peur d'être distraits. Aussi, c'est dans un bar de Tampere, au sud de la Finlande, que l'on retrouve Oskari Ratinen, l'un des membres fondateurs du peuple de l'ours, et Satu Kiiski, qui a rejoint le culte en 2011. 3 à 4 fois par an, tous les membres du peuple de l'ours se réunissent dans la forêt finlandaise pour célébrer des festivals. Oskari Ratinen décrit ces événements.
One of the most important rituals.
Le rituel le plus important, c'est celui de la naissance de l'ours. Avec des chants et des gestes symboliques, nous décrivons les débuts mythiques de cette créature. On lui dit que l'on sait d'où il vient et que s'il se comporte bien, nous nous comporterons bien aussi. C'est un peu comme avoir de bonnes relations avec son voisin. On lui montre qu'on l'accepte et qu'il doit faire pareil en retour. Alors bien sûr, durant ces cérémonies, nous ne cherchons pas à rencontrer un ours en chair et en os. Ce serait bien trop difficile et surtout bien trop dangereux.
Cette chanson traditionnelle que vous entendez est l'une des multiples sources d'inspiration des membres du peuple de l'ours. Adorateur de dieux et de déesses, ils considèrent l'ours comme l'ancêtre mythique de l'humanité. Ils n'ont pas inventé toutes ces croyances. Ils les tirent des anciens cultes finlandais établis avant l'arrivée du christianisme en terre nordique et s'inspirent des poèmes et chansons populaires vénérant la nature et transmises de génération en génération. La forêt, et plus largement la nature, constitue l'élément le plus important de cette religion. Mais en dehors des festivals, la pratique du culte du peuple de l'ours est personnelle. Certains membres vont prier lors de moments importants dans leur vie, comme une naissance ou un décès, pour demander aux forces de la nature ou à leurs ancêtres disparus de les aider. Mais il n'existe pas de vraies règles, explique Satuki Iski.
Il y a des centaines de dieux et de déesses. Quand les gens nous demandent qui l'on prie, je pense que nous donnons tous une réponse différente. On choisit un dieu, celui qui est le plus proche de nous. Par exemple, j'ai grandi près de la forêt. Je me sens donc plus proche du dieu de la forêt. D'autres ont grandi près de la mer et prieront le dieu de l'océan.
Grâce à leur reconnaissance officielle par le gouvernement finlandais, les membres de cette religion païenne peuvent désormais se marier et être enterrés selon leur propre rite. Cette reconnaissance les a mis aussi sous le feu des projecteurs. Satuki Iski a toujours du mal à réaliser.
Être reconnu officiellement, c'est un grand pas, c'est incroyable. Bien sûr, ça ne change pas grand-chose pour moi en tant que personne, car je suivais déjà les rites sans me demander s'ils étaient officiels ou non. Mais nous voulions être au même niveau que les autres religions, comme le christianisme, qui ont été importées en Finlande voilà très longtemps et ont contrôlé la société depuis lors.
Malgré l'intérêt médiatique qui a suivi cette reconnaissance, le peuple de l'ours n'a pas enregistré de nombreuses demandes d'adhésion. Pour Oskar Hirartinen, recruter de nouveaux membres, ce n'est pas la priorité. Mais il liste quand même les règles à suivre pour ceux qui seraient intéressés.
Il faut que chaque candidat prouve qu'il n'a rien à perdre ni à gagner financièrement dans cette adhésion. Notre religion est gratuite. Ensuite, il faut avoir une vraie motivation spirituelle pour nous rejoindre. Certains ont tenté de nous infiltrer pour des raisons politiques, comme les nationalistes. Nous, on ne veut pas d'eux. Il faut être sincère et accepter nos valeurs.
Vesa Piludu est chercheur au sein de l'Université d'Helsinki. Il étudie le culte de l'ours en Finlande et dans le reste de l'Europe. Et voilà pourquoi, selon lui, l'animal est vénéré dans de nombreux pays.
L'ours est très gros, mais il est aussi sympathique. Il marche de manière amusante, un peu maladroite, et il nous ressemble lorsqu'il est sur deux pattes. Après tout, pourquoi les enfants ont-ils des ours en peluche? Parce qu'ils sont très mignons. Et puis, l'ours est aussi le symbole des tragédies. Le panda est le symbole de l'association écologiste WWF. L'ours polaire symbolise le drame de la fonte des glaces. Au Canada, on protège l'ours brun et les grizzlies. Mais on ne fait pas la même chose pour des serpents ou des loups, qui sont considérés comme nuisibles dans les cultures anciennes.
Ainsi, la vénération de l'ours n'existe pas qu'en Finlande. Vesa Piludu a relevé des pratiques similaires en Italie, en Russie, en France, en Chine ou au Canada. Reste à savoir si la religion du peuple de l'ours fera, elle, des émules à l'étranger.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Vous l'avez compris, on est revenu dans l'orthodoxie en Pologne. Pas question de ce genre de fantaisie. Les Polonais, eux, restent fidèles à leur pape, feu Jean-Paul II. Son village natal de Wadowice est même un haut lieu de pèlerinage religieux. Maya Szymanowska.
Wadowice est fidèle à son pape, peut-on lire sur une large banderole qui endoit sur une façade d'immeuble. La petite ville où est né Karol Wojtyła tient à manifester sa fierté d'avoir éduqué ce saint homme. Les habitants de Wadowice ont toutes les raisons d'être fiers et satisfaits. La nomination de l'évêque de Cracovie à la tête de l'Église catholique a tiré cette petite bourgade d'un marasme économique certain. Avant la Seconde Guerre mondiale, du temps où Karol y faisait ses classes, Wadowice était un petit centre culturel florissant avec sa garnison et ses usines. Depuis, la ville a connu une traversée du désert, jusqu'en 1979. Aujourd'hui, près de 1000 touristes par jour déambulent dans les rues de la ville qui compte 20 000 habitants. Wadowice est sorti de son néant et se trouve désormais sur l'itinéraire touristique proposé par les agences de voyage aux visiteurs venus d'Allemagne, d'Italie, de France, des États-Unis et même du Japon. Il a suffi que Karol Wojtyła, en visite en 1999, se recueille sur la place et qu'il se souvienne d'un certain gâteau kremówka, spécialité du coin du temps de son enfance, pour que des pâtisseries poussent comme des champignons. Le gâteau à la crème du pape est désormais le goûter obligé de tout pèlerin. On en vend plus de 1000 chaque jour. L'église et la place centrale de la ville ont été rénovées, ainsi que le musée consacré au pape. L'appartement natal de Karol Wojtyła, situé au 7 rue de Kościelna, où le futur pape a vécu toute son enfance, a été rénové en 2011 pour devenir un centre de pèlerinage. Eva Dowice se prépare à une nouvelle vague de visiteurs à l'occasion de la canonisation de Jean-Paul II qui aura lieu le 27 avril prochain.
Et Eve Minot nous a rejoint. Nous sommes très frustrés parce que notre réalisatrice nous interdit de chanter à l'antenne. Bonjour Eve.
Bonjour Catherine.
Alors, elle était au cœur des récentes élections municipales en France et déjà annoncée comme l'un des enjeux principaux du scrutin européen de mai prochain. La participation des jeunes aux élections reste un sujet épineux. Et ce n'est pas faute d'essayer de les mobiliser pour les intéresser. Dernière initiative en date, un clip vidéo au nom accrocheur, Happy Voting. On comprend mieux la chanson.
Exactement.
Eh oui, on a déjà entendu cette rengaine.
Oui, votez gaiement, c'est un peu le message que veut véhiculer cette vidéo. Elle s'inspire d'un clip célèbre d'une chanson de l'artiste américain Pharrell Williams qui met en scène des inconnus dansant dans les rues de Los Angeles. Pendant les élections municipales françaises, déjà, on avait vu fleurir ça et là le même genre de vidéo pour célébrer telle ou telle ville. Et cette fois-ci, l'initiative vient des membres de plusieurs ONG européennes et de quelques bénévoles euro-enthousiastes et qui aiment danser apparemment. Adapté à l'enjeu européen de mai prochain, on y voit donc des jeunes qui dansent dans les rues de Bruxelles et même un drôle de personnage qui fait aussi une apparition, une espèce de super-héros en collant bleu aux couleurs de l'Europe. En réalité, le clip n'est évidemment qu'une accroche, un moyen de faire du clic et d'attirer l'attention des jeunes électeurs sur les enjeux du scrutin de mai prochain. Donc.
Oui, Eve, car si les jeunes aiment danser, ils participent beaucoup moins aux élections européennes.
Oui, traditionnellement, la classe d'âge 18-24 ans est toujours celle qui vote le moins au niveau européen. La dernière fois, c'était en 2009. L'abstention de cette jeunesse dépassait même les 70%. Une situation que la jeune eurodéputée allemande de 32 ans, Franziska Keller, regrette, tout en reconnaissant que les bureaucrates de Bruxelles ont un peu leur part de responsabilité.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne savent même plus pourquoi on vote, alors que ces élections vont être déterminantes quant à la direction que va prendre l'UE. Comment allons-nous sortir de la crise? Voulons-nous une Europe forteresse ou une Europe ouverte? C'est aussi à nous de bien montrer en quoi les partis sont différents et que voter pour l'un ou l'autre, ce n'est pas pareil. C'est essentiel pour le bon déroulement de la démocratie et c'est à nous de clarifier tout ça.
Alors cette année, Eve, les analystes s'attendent vraiment au pire.
Oui, on s'imagine pourtant que les jeunes sont les premiers ambassadeurs de l'identité européenne, les premiers finalement à en bénéficier, notamment à travers des programmes de mobilité qu'on ne présente plus, type Erasmus, et donc les premiers défenseurs de l'Europe. Mais déjà en 2009, et c'était avant la crise, je vous le disais tout à l'heure, ils n'avaient pas été très nombreux à se déplacer. Pourtant, ils déclaraient à l'époque à 54% faire confiance à l'Europe, et 3 sur 4 affirmaient même être satisfaits du fait que leur pays appartienne à l'Union européenne. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, tout a changé. Les jeunes sont en première ligne de la lutte pour l'emploi. Ils subissent le chômage et la précarité de plein fouet et ces élections risquent, selon l'avis général, de faire une large part à l'euroscepticisme, y compris chez les plus jeunes qui iront voter.
D'où peut-être une place pour le débat, la réflexion autour des élections européennes qui a été mise en place.
Oui, on essaye en tout cas. Cette initiative est menée par plusieurs associations qui travaillent avec la jeunesse européenne. Elles ont mis au point une ligue des jeunes électeurs qui a son propre site en anglais, youngvoters.eu. Parmi les sujets abordés sur ce site, on retrouve le chômage, bien sûr, mais aussi un débat autour de la position du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, la revendication d'un enseignement totalement gratuit. Le site propose également quelques questions de déterminer de quel parti européen vous êtes le plus proche. C'est un bel effort, Catherine, mais ce n'est pas sûr que cela suffise à toucher les masses.
Voilà, Happy Voting Eve, alors le slogan pour aller voter aux européennes, enfin si les politiques donnent l'envie aux jeunes. Bon, ben nous on va terminer en dansant alors, Eve.
On danse.
Et oui, Action d'Europe, c'est déjà fini. À la réalisation, Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous réécouter sur le site RFI.fr ou sur Facebook. Restez à l'écoute de la Radio du Monde. Dans un instant, les infos.